Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes en direct dans le studio de Radio Grenouille, Friche, Belle de Mai, on espère que tout va bien. Pendant une demi-heure, avec notre invité, on va causer identité et roman national, rien que ça. Tout en douceur et sans se prendre la tête, bien évidemment, autour de ces questions très compliquées à l'heure d'aujourd'hui, de tout ce qui nous traverse, on va se poser la question... Comment parler de la France aujourd'hui? Quelle réflexion à l'heure des concepts postcolonialistes pouvons-nous entendre et insuffler dans nos manières à tous, de quelques origines que nous soyons, de penser notre société, l'éducation, le rapport à la chose publique, à la chose politique? Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Simon Morin.
Bonjour, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'école polytechnique et chercheur associé au centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, également docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris et diplômé de l'Université de Cambridge, la London School of Economics. Sacré CV, monsieur Martini, c'est un vrai honneur de vous recevoir. Vos recherches portent principalement sur la construction des représentations sociales, des manifestations contemporaines du nationalisme français et des débats justement relatifs à l'identité nationale et des usages politiques de la culture. Ça va faire un grand projet pour une discussion d'une demi-heure.
C'est un grand projet, je ne sais pas si on aura le temps.
Mais si, on a le temps, dans tous les cas. Vous êtes l'auteur surtout de Dire la France, culture et identité nationale 1980-1995, paru aux presses de Sciences Po en novembre 2017, qui retrace justement la généalogie du débat sur l'identité nationale à travers la notion de culture française depuis la fin des années 70. Et vous êtes également un homme de radio. Vous co-animez toutes les semaines l'émission L'atelier du pouvoir en alternance avec Thomas Vieder et Ariane Chemin, tous les samedis 12h45-13h30 chez nos camarades de France Culture. Bienvenue dans les studios de Radio Grenouille.
Merci beaucoup.
Si vous êtes ici aussi, précisons-le, c'est que vous êtes invité par des livres comme des idées à intervenir dans le cadre du collège de la troisième conférence du collège de Méditerranée qui aura lieu demain, samedi 18 février à 15h, pour une discussion avec l'historien de l'université de Tunis, Sobhi Bouderbala, autour de l'Europe et l'islam, de points histoire et représentation. Ça va sans doute traverser un peu aussi ces thématiques, vont traverser un peu ces entretiens. Je précise que la conférence de demain qui a lieu au centre social Mère et Colline dans le 8e, elle est complète. Mais on me dit dans l'oreillette que peut-être, si vous vous renseignez surtout sur les différents réseaux de Des Livres comme des Idées, des places pourraient être remises. L'entrée est évidemment gratuite, mais certaines réservations pourraient peut-être se désister. Dans tous les cas, Vincent Martini est avec nous en studio. Allons-y, Vincent. Du coup, j'avais envie de savoir en fait de quel constat était partie l'envie de rédaction de ce livre, de ces questionnements, de Dire la France, justement.
Alors c'est d'abord un double constat. Le premier constat, c'était de penser que on parlait d'identité nationale maintenant depuis une dizaine d'années, depuis que Nicolas Sarkozy a remis ce thème sur l'agenda politique, mais que il me semblait qu'on n'en avait pas toujours parlé comme ça. On avait l'impression dans ce débat qu'il était à la fois tout nouveau et en même temps très ancien. C'est comme si on se remettait à parler de ce que c'était la France, et pourtant moi quand je faisais quelques recherches historiques, je voyais que dans les années 70-80 déjà ce débat était un débat très très important. Donc c'était vraiment le point de départ, c'était de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans les différentes façons de parler de la France, et déjà réintroduire cette pluralité. On peut parler de la France de plein de manières différentes. Il n'y a pas une seule façon de dire la France, justement, d'où le titre de mon livre. Voilà, mon interrogation de départ, elle était là. Et puis, j'ai tiré un petit fil, en fait, comme font les chercheurs en général. Ils cherchent quelque chose et puis on tire un fil pour voir où ça nous emmène. Et je me suis rendu compte que dans les années 80, le parti principal qui parlait d'identité nationale, c'était pas les Républicains, l'UMP ou le RPR, les partis de droite, ou même pas l'extrême droite d'ailleurs, c'était la gauche, c'était le Parti Socialiste et en partie le Parti Communiste. Mmh. Donc je me suis interrogé sur comment est-ce que ces partis s'étaient emparés de ce thème, et bien sûr, vous imaginez qu'on en parlait de manière très différente d'aujourd'hui.
Vous racontez dans le programme, d'ailleurs, dans le programme de François Mitterrand pour l'élection de 81, c'était vraiment la culture qui était mise au centre de tout ça.
Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'idée de culture. C'était que dans les années 70 et 80, la gauche s'est mise à parler d'identité nationale en disant, finalement, qu'est-ce que c'est que notre identité? C'est notre culture. Mais culture au sens des artistes, de la vie, de l'esprit. Et puis aussi, une conception de la culture comme l'ensemble des modes de vie français. Mais ça passait par la langue française, mais aussi la gastronomie française. Et donc, c'est pour ça que dans les années 80, quand Jack Lang, par exemple, tout le monde sait, a fait une très grande politique culturelle, eh bien, c'était aussi au nom, et avant tout d'ailleurs, au nom d'une certaine conception de l'identité nationale. Mais attention, quand je dis ça, c'était pas une conception monolithique de l'identité. On voit bien qu'aujourd'hui, on nous explique qu'il y aurait un récit, une façon de voir les choses. Alors, on est pour, on est contre, on est dedans ou on est dehors.
On est gaulois ou non, quoi.
On est gaulois ou non, exactement. Parce que l'idée, c'était, enfin, l'idée, c'est maintenant de réfléchir aux frontières de l'identité. Qui est-ce qui est français, qu'est-ce qui n'est pas français? Alors, à l'époque, c'était tout à fait différent. Et je crois que le Parti Socialiste, ou en tout cas la gauche française, avait à l'époque élaboré une conception, un récit national, je préfère parler d'ailleurs de récit que de roman, un récit qui disait la France, c'est une mosaïque de cultures. Et donc, justement, la particularité française, c'est être à la fois une entité qui englobe toutes ces cultures et qui dialogue avec elles, mais qui aussi leur laisse une place. Et il faut mettre en avant les différences culturelles, il faut valoriser le métissage, il faut valoriser les différentes cultures, et on se rappelle que Jack Lang avait fait ça dans les années 80, c'est non seulement la fête de la musique, mais on avait aussi fait les saisons culturelles hein, en France, qui avait commencé avec la saison de l'Inde, la maison des cultures du monde qu'on a ouvert à Paris, l'Institut du monde arabe qu'on a aussi inauguré dans les années 80. C'est toute une conception d'une forme de multiculturalisme, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. C'est tout simplement la reconnaissance des différences culturelles à travers aussi une politique qu'on appelait le droit à la différence.
On peut peut-être revenir sur le contexte, justement, le contexte 70-80 pour nos plus jeunes oreilles aussi, derrière le poste sur Radio Grenouille. On est dans un contexte post-1968. On est aussi dans un contexte où l'anti-étatisme est assez puissant. Quand même face à De Gaulle, etc. Et c'est là-dessus que ça se construit justement ce multiculturalisme.
Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en 1968, qu'est-ce qui se passe sur le plan culturel? Il se passe d'abord qu'on se rend compte qu'il y a une culture majoritaire qui a un peu écrasé un certain nombre de cultures minoritaires. Quand on dit minoritaire, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, on pense toujours aux cultures étrangères, mais ça, à la limite, c'est une dimension marginale. À l'époque, c'était les cultures des minorités sexuelles, par exemple les homosexuels, mais aussi une minorité qui n'en est pas une, les femmes, qui trop longtemps dans leur récit ont été mises sous le boisseau, mais aussi les cultures ouvrières. Il y a toute une série de cultures qu'on redécouvre dans les mouvements gauchistes des années 68. Et ces cultures, eh bien, elles seront l'objet d'un intérêt très fort d'une partie de la population, de l'intelligentsia, des intellectuels, mais aussi des militants de gauche dans les années 70. Et donc, tout d'un coup, tous ces mouvements, il n'y a pas un grand parti, hein, tout ça se mélange, et ces mouvements vont faire circuler un certain nombre d'idées qui vont finir par arriver au Parti Socialiste. Et au PS, il y a deux tendances à l'époque. En gros, on va le dire très schématiquement. Hein. Il y a une tendance autour de François Mitterrand, ce qu'on appelle à l'époque la première gauche, c'est-à-dire plutôt étatiste, plutôt centralisatrice, plutôt autour de l'idée de la nationalisation, la rupture avec le capitalisme. Ça, c'est une première tendance. Puis il y en a une autre, beaucoup plus héritière de mai 68, qui s'est un peu réunie autour du Michel Rocard. Et elle, cette tendance, elle est plutôt régionaliste. Il faut valoriser les cultures régionales, il faut favoriser les cultures des minorités sexuelles, les femmes, etc., etc. Et donc, pour 81, ce qui va se passer, c'est comme vous savez, le PS aime bien les synthèses. Et bon, on va faire une synthèse de ces deux tendances et on va avoir ce programme qui à la fois défend les nationalisations, la rupture avec le capitalisme, mais il va aussi défendre les cultures régionales, les cultures minoritaires en général. Mmh. Et c'est là où on va parler de cette façon de dire la France tellement originale, c'est-à-dire de dire, il faut défendre la culture française et la France en général, hein, il faut mettre en avant l'idée de la France, mais quelle France? Cette France mosaïque, cette France multiculturelle, cette France qui est justement cette pluralité d'identité.
Est-ce qu'on parlait à l'époque d'un patriotisme de gauche?
Oui, bien sûr, mais c'était pas évident, parce qu'il faut bien comprendre qu'après 68, il y a aussi un antinationalisme qui se mobilise à gauche, hein. Le nationalisme, c'est la guerre. Hein, c'était ce que disait François Mitterrand bien plus tard, mais c'est ce que pensait une grande partie des militants de gauche. Le nationalisme était responsable de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de toutes les guerres du siècle. Et donc, tout ce qui était nationalisme était un peu suspect. En tout cas, le nationalisme des grandes démocraties occidentales, hein, la France, les États-Unis, c'était très anti-américain aussi. Hein, il y a toute une partie de mon travail, de mon livre, qui parle de cet anti-américanisme comme anti-nationalisme américain.
Bon. Ce qui a donné lieu à l'exception culturelle, je pense qu'on va
exactement, ce qui a donné lieu à l'exception culturelle, parce qu'on disait, sur un plan culturel, le nationalisme américain aussi produit une espèce de culture qui écrase les autres. Et parce que le nationalisme, c'est forcément intrusif du reste. Alors, à partir de ce moment-là, il fallait se poser la question de savoir ce serait quoi un nationalisme de gauche. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en avant un patriotisme, un attachement à la nation, parce qu'après tout, la nation, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une représentation qu'on appelle dominante en sens social, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça veut dire quelque chose. Hein, vous demandez aux Français, encore une fois, de tous les partis politiques, pour une grande partie d'entre eux, ça veut dire quelque chose. Alors on peut considérer que c'est une illusion, mais c'est une illusion en tout cas qui convainc un grand nombre de concitoyens. Donc la gauche ne pouvait pas se défaire de cette idée-là. Et puis il faut comprendre aussi qu'en 80, ça fait 23 ans que la gauche est dans l'opposition. Donc il faut convaincre la majorité de l'opinion publique que le Parti Socialiste et ses alliés communistes, par exemple, sont des partis légitimes pour gouverner, sont des partis de la France. Mmh. Donc il faut réinstaurer une forme de récit national qui fasse une place à la fois aux traditions militantes de la gauche, méfiante vis-à-vis de la nation, méfiante vis-à-vis de tout ce qui est autoritaire, jacobin, centralisateur, et en même temps, eh ben, qui permettent de convaincre ceux qui auraient peur un peu du socialisme, vous savez, le couteau entre les dents, les bolcheviques, les communistes. Il faut faire, à l'époque, c'était vraiment la peur du moment. Faut pas oublier qu'il y avait l'Union soviétique derrière les communistes. Eh ben, il fallait les convaincre que l'alternance serait une alternance pacifique.
Comment cet idéal, justement, Vincent Martini, s'est retrouvé confronté avec les réalités du terrain, avec comment la société française était surtout en train de changer? J'ai envie de prendre comme exemple la marche des beurs de 1983. Comment le pouvoir, comment les identités ont reçu ces nouvelles revendications, ces nouvelles formes de réflexion également?
Alors, il faut d'abord commencer par dire que quand le Parti Socialiste parvient au pouvoir, il est très soutenu par les mouvements régionalistes, les mouvements émigrés. Il y a vraiment une osmose autour de cette question culturelle, parce qu'à l'époque, tout le monde dit, mais il ne faut pas défendre les identités, il faut défendre les cultures.
Et à cette époque-là, la société changeait aussi très vite.
La société était en train de changer. Il ne faut pas oublier que 1981, c'est la dernière élection présidentielle où l'immigration n'est pas un enjeu. On ne parle pas d'immigration, parce que la question, c'est les classes sociales. On est encore... Rappelez-vous, par exemple, enfin, pour nos jeunes auditeurs, ils ne se rappelleront pas, d'ailleurs, moi non plus, j'étais à peine né, Valéry Giscard d'Estaing avait reçu à l'Élysée des éboueurs maliens. Ils s'en fichaient qu'ils soient maliens. L'important, c'est qu'ils soient éboueurs. C'était les gens qui étaient des classes sociales défavorisées. Donc, à partir de 82-83, il y a deux bouleversements. D'abord, il y a l'émergence du Front National en 83. Les municipales, notamment, on se rappelle peut-être de la ville de Dreux, où il y avait une majorité Front National. Et tout d'un coup, ce nouveau parti xénophobe, anti-immigré émerge et fait émerger ce qu'il a appelé, lui, le problème de l'immigration. Ce qu'il a appelé le problème, encore une fois, bien sûr, on peut juger que ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, ça commence à se formuler par une partie de l'opinion comme un problème. Et donc, il faut réagir à ces enjeux. Et de l'autre, vous avez des deuxième, troisième génération français d'origine immigrée, notamment de cette immigration postcoloniale qui vient du Maghreb, d'Afrique subsaharienne en grande partie, qui commence à dire « mais nous, on est français, donc on a un certain nombre de droits ». Et alors là, le pouvoir hésite entre deux positions. Le pouvoir de gauche, il hésite d'un côté entre vouloir lutter contre le Front National, lutter contre les idées racistes, xénophobes qui commencent à traverser la société française parce que c'est incompatible avec ses propres valeurs, et dans le même temps, il ne sait pas trop quoi faire de ces associations dont vous parliez, la Marche des Beurs, qui est au départ un mouvement vraiment qui vient de la société civile, et il ne sait pas trop quoi faire avec ces associations, et donc il essaye un peu de les récupérer d'une certaine manière. Donc c'est toujours pareil en fait avec la politique, c'est que la politique est toujours en train d'essayer de accompagner certains mouvements qui lui sont favorables, mais attention, on ne veut pas de débordement, on n'a pas envie non plus que ces mouvements débordent le politique lui-même. Et c'est pour ça, par exemple, que va être créé, par la suite, d'une certaine manière contre la marche des beurs, le mouvement SOS Racisme, qui va être très proche du Parti Socialiste.
Et surtout que ça sentait aussi les relents de la guerre d'Algérie avec l'émergence. Et voilà, les vieux démons de toute l'intelligence
politique. Qui continuent de traverser la France.
J'y viens justement, Vincent Martini. Comment aujourd'hui, justement, votre étude dans Dire la France arrête en 95, et vous soulignez que on peut comprendre aussi tout ce qui nous traverse aujourd'hui en 2017. On est à 3 mois de la présidentielle maintenant. Toujours ces thématiques sont toujours présentes, la question de l'identité nationale. Et aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs très récemment avec des collègues, on se posait la question, mais être patriote, est-ce que c'est forcément être de droite aujourd'hui? Et la question est comment la droite, l'extrême droite ont récupéré justement ces choses-là?
Alors, mon livre s'arrête en 95 parce qu'il me semble que dans les années 80, il y a une décennie cruciale qui comprend comment, d'abord, on formule d'abord une identité nationale de gauche, un récit national de gauche, mais comment progressivement ce récit national de gauche est battu en brèche, c'est-à-dire cette promotion du pluralisme, de ce que on appelait à l'époque le droit à la différence, c'est-à-dire vous avez le droit d'être différent. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins français. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous appartenez à une religion différente et vous êtes de couleur différente qu'au contraire, vous enrichissez la France. Et ce récit pluraliste ouvert, progressivement, il va être battu en brèche. D'abord par la droite, qui fait véritablement une contre-offensive identitaire dès la deuxième moitié des années 80. Et ensuite par une partie de la gauche qui n'est pas très convaincue. La gauche de Jean-Pierre Chevènement, très patriote, très nationaliste, au sens le plus historique, d'une certaine manière. Et qui va être assez méfiante de cette valorisation des différences. différence tant au niveau régional qu'au niveau des immigrés, en disant « Ouh là là, il y a un danger électoral », et puis de toute manière, la France, c'est quand même Paris, c'est la centralisation. Et donc, ce système va être battu en brèche. Et puis, dans la deuxième moitié des années 80, il y a un deuxième phénomène qui est ce que j'ai appelé le retour de la culture républicaine. Bien sûr que la République avait toujours été là, mais tout d'un coup, tout le monde commence à reparler de la culture républicaine, la République, notre patrimoine commun, la République, notre héritage, la République, le cœur de notre identité.
Celle de Jaurès, la laïcité, quoi.
Jaurès, la laïcité, mais pas seulement celle-là aussi. Une République qui disait, le projet républicain, c'est qu'est-ce qu'on a en commun ? Alors, soit vous le voyez de manière ouverte, vous dites on a des valeurs, l'égalité, la liberté, la fraternité. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent à dire à partir de la fin des années 80, bah, ce qu'on a en commun, il faut que ce soit une culture. Donc, c'est fini, on ne fait plus l'apologie des différentes cultures parce que c'est dangereux, on va libaniser la France, c'était ça le grand terme. Attention au communautarisme, ce terme qui émerge dans les années 80, il n'existait pas avant. Personne ne parlait de communautarisme avant. Et non pas parce qu'il y a un danger communautariste qui émerge, mais parce que tout d'un coup, une partie du champ politique et intellectuel découvre que c'est une façon de miner ce discours pluraliste pour se réunir autour d'une seule culture. La France est une culture française dans laquelle on s'intègre ou qu'on rejette. Hein. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen, récupéré par Nicolas Sarkozy, bien après. Et c'est là-dessus que la droite, à partir du milieu des années 2000, va commencer à établir un peu cette reconquête de l'identité nationale qu'elle avait commencé à faire dans les années 80. Mais Jacques Chirac était quelqu'un qui n'était pas très à l'aise avec cette thématique. Et lorsqu'il est élu président de la République en 1995, il ne souhaite pas vraiment creuser cette thématique-là. Il va le faire un petit peu, mais enfin plutôt en loose dé, on dirait. Nicolas Sarkozy n'a pas ses préventions. Et donc, à partir de 2004-2005, il voit les émeutes urbaines, il voit tout un certain nombre de phénomènes qui fait qu'il sent que l'opinion est dans un raidissement, est dans une angoisse identitaire, donc qu'il va exploiter. Et c'est comme ça que la droite va surfer, va réintroduire ce thème de l'identité nationale, qui est un thème, là encore une fois, qui exclut quand même la dimension pluraliste. Hein, c'est une idée d'il y a un récit national avec des grands héros français. Et là, on est sur deux récits qui s'opposent. Un récit pluraliste, par exemple, qui est porté par Ségolène Royal en 2007, qui dit « La France, c'est quoi ? C'est la France métissée ». Hein, c'est en accueillant tous ceux qui nous rejoignent que la France est grande et forte et quand elle fait face à son histoire. Et puis de l'autre, vous avez un récit, celui de Nicolas Sarkozy, qui dit bah non, la République c'est l'autorité, c'est une histoire de France qu'on prend à prendre ou à laisser, pas de repentance. On le voit encore avec le débat François Fillon-Macron sur la question de l'Algérie, crime contre l'humanité, etc., sur la colonisation. Et on voit bien que là on est en train d'aller vers un récit qui commence à sentir le roussi.
Carrément. Et ce n'est pas qu'en France que les choses sont très complexes. Aux États-Unis aussi, évidemment, avec Monsieur Trump. Et je voulais qu'on écoute ensemble, pour respirer un peu tranquillement sur Radio Grenouille, un morceau du rappeur Kendrick Lamar. Morceau qui a été repris par tout le mouvement Black Lives Matter, qui aujourd'hui, en France comme outre-Atlantique, n'est plus que jamais d'actualité. All right.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face is all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright,
right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's easy.
illegal. I don't think about it. I deposit every other zero. Thinking of my partner. Put the candy painting on a Rico. Digging in my pocket. And a profit big enough to feed you. Every day my logic. Get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it. Be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog. My dog, that's all. Pick back and chat. I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks. So rest assured. My rights, my wrongs. I write till I'm right with God.
When you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.
Nights and my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
L'excellent Kendrick Lamar avec le tout aussi excellent titre All Right, sorti sur son album To Pimp a Butterfly. C'est sorti l'année dernière et le titre est bien évidemment en rotation sur Radio Grenouille. On est toujours avec notre invité Vincent Martini, auteur de Dire à la France culture et identité nationale 81-95. Invité Vincent Martini à converser demain avec l'historien Sobhi Boudherbala dans le cadre des collèges de Méditerranée. Ça se passera au centre social Mer et Colline dans le 8e. Et là, demain, ça parlera de l'histoire de l'Europe et l'islam sur l'histoire et représentation, la culture dans tout ça, monsieur Vincent Martini. Peut-être peut-on rebondir justement sur ce titre All Right de Kendrick Lamar, utilisé, revendiqué dans les manifestations autour des violences policières, de du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Choses qui peuvent aussi, on va pas essayer de tout mélanger non plus avec ce qui traverse aujourd'hui la France et ce qu'on a appelé l'affaire Théo. La culture dans tout ça, comment justement elle peut nous aider à raconter notre pays, notre société, nos cultures au pluriel, comme c'est précisé sur le sous-titre de votre bouquin, Vincent.
Mais alors justement, je pense que la culture, c'est probablement la meilleure réponse à tous les identitaires. Je parle des identitaires, c'est-à-dire ceux qui nous expliquent qu'il y aurait une culture monolithique, une culture française unique. Les Philippe de Villiers, les Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, qui sont dans cette espèce de, ce qu'on pourrait appeler une forme de fantasme quand même, sur une culture française de tout temps, qui n'aurait pas bougé. Il faut rappeler plusieurs choses. D'abord qu'il n'y a pas une culture française, mais un ensemble de cultures qui forment ce qu'on appelle la culture française. Ça ne veut pas dire que la culture française, ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'elle est tout simplement très multiple, très mixte, très métissée d'une certaine manière, elle l'a toujours été. Et deuxièmement, dire que probablement un des traits de notre époque, et c'est bien dommage, c'est que la culture n'est plus un projet politique. C'est ce que disait François Mitterrand en 80, il disait « le projet socialiste est avant tout un projet culturel ». Enfin, moi je pense que c'est une époque dans laquelle on devrait s'inspirer aujourd'hui, de dire mais finalement le cœur des réponses identitaires, le cœur des réflexions sur qu'est-ce que nous sommes nous les Français, on est un ensemble de cultures. Et je crois que dans culture il y a plusieurs choses, il y a un ensemble de modes de vie, bien sûr la défense d'une ou de plusieurs langues françaises, parce qu'on sait qu'il y a des langues régionales aussi. Vous savez, moi je suis originaire d'un département d'outre-mer, la Réunion, le créole, c'est une langue de la France aussi, c'est une langue de France. Et il y a plein d'autres, le breton, le corse, etc. Mais, et puis, bien sûr, la langue française. Donc, il y a déjà des réponses autour de la langue. Et puis, il y a des revendications, justement, que, en tout cas, à mon sens, le meilleur de notre identité, c'est justement les expressions culturelles, la diversité des expressions culturelles françaises qui font que ce pays, peut-être, a quelque chose de différent des autres. Parce qu'on est un pays de longue immigration, ça fait plusieurs siècles que la France est traversée de périodes d'immigration, juste pour vous donner quand même une petite idée. Au tournant du XXe siècle, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, la proportion d'immigrés, d'arrivées d'immigrés était équivalente en France et aux États-Unis.
Okay.
Sauf que les États-Unis se définissent comme un pays d'immigrants et la France pas du tout. Hein, la France, on a toujours l'impression qu'on est un pays très homogène sur le plan ethnoculturel, mais c'est faux. On l'a jamais été. Enfin, en tout cas, depuis 150 ans, où la France est traversée par les grandes vagues d'immigration polonaise, italienne, espagnole, portugaise. Hein, aujourd'hui encore, la plus grande ville du Portugal, c'est Paris. Il ne faut pas l'oublier. Il faut le revendiquer, il faut en être fier, parce qu'il me semble que là-dedans, il y a... au contraire, la source d'un véritable dialogue. Alors, encore une fois, il ne faut pas que toutes ces cultures soient enfermées. C'est dans ce dialogue-là, dans cette espèce de capacité de se retrouver ensemble, que se fait peut-être une forme d'identité française, si tant est que l'universalisme existe. En tout cas, il y a peut-être là-dedans une forme d'universalisme qui est intéressant, mais certainement pas dans une culture majoritaire. Donc voilà, donc je pense que vraiment, vous avez raison de le rappeler, c'est dans la revendication de nos cultures et de nos expressions culturelles diverses que là, on a une singularité de ce qu'est la France aujourd'hui. Et d'ailleurs, on s'y trompe pas, parce que les jeunes gens, les jeunes auditeurs qui nous écoutent, pour eux c'est totalement évident, dans nos goûts culturels, dans nos pratiques culturelles, on est totalement cosmopolite d'une certaine manière. Et donc ce que je dis, c'est qu'il faudrait arrêter d'avoir deux cerveaux, un cerveau qui correspond à notre pratique quotidienne, où n'importe qui, et je suis sûr que c'est même le cas d'Alain Finkielkraut, qui doit écouter un certain nombre de musiques et regarder un certain nombre de films de tous les pays, et se sentir proche de cela, et sans qu'on lui demande de faire un choix entre Mozart et le rap, si tant est qu'il écoute du rap, en tout cas c'est mon cas, donc moi j'ai choisi pas entre Mozart et le rap, et de la même manière, j'aimerais pas qu'on m'impose dans mon cerveau politique que je sois obligé de prêter allégeance à une France de tout temps dont il me semble qu'elle ne correspond pas à la réalité dans laquelle nous nous trouvons.
Comment se fait-il, à votre avis, Vincent, que justement les hommes et femmes politiques aujourd'hui à gauche ne s'emparent pas plus de ces questions? C'est justement car l'effet malaise de l'identité nationale, l'effet un peu raccroché à Nicolas Sarkozy, à Jean-Marie, puis Marie Le Pen, s'en sont trop emparés et que de fait on a l'impression de marcher sur des œufs avec ça.
Ouais, moi ça a été mon grand mystère, mais j'aurais deux réponses à votre question. La première, je pense qu'il y a une perte de mémoire. Je pense que la gauche a même oublié que dans les années 80 elle a défendu des positions de cette manière-là. Il y a aujourd'hui des dirigeants du Parti Socialiste qui m'ont écrit des lettres ou qui m'ont écrit des mots ou que j'ai rencontrés et qui m'ont dit mais je ne me rappelais plus de ça. Ou maintenant que je le lis chez vous, je me rends compte que c'est vrai. Je me souviens des discours de François Mitterrand, de Jacques Lang, de Laurent Fabius, de toute cette intelligentsia de gauche dans les années 80, mais j'avais un peu oublié. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un combat culturel, en tout cas une bataille culturelle qui a été perdue par la gauche dans les années 90 et 2000. C'est-à-dire qu'on a laissé, ils ont laissé la droite imposer un certain nombre de thèmes qui étaient des thèmes identitaires au sens le plus étroit, et que c'est difficile quand on est dans une bataille culturelle, tout d'un coup, de faire une contre-offensive, hein, d'une certaine manière. Et cette bataille culturelle, elle continue de faire rage parce qu'y compris au sein de la droite française, vous avez les courants les plus radicaux qui sont en train de pousser vers une radicalisation de ces discours-là. Mmh. Ce qu'on pourrait dire, à certains égards, une trumpisation à certains égards de la droite. Et le fait que François Fillon soit en ce moment très contesté, très en danger, fait qu'il est tenté de se resserrer sur cette partie-là de son électorat qui est la plus radicalisée. Donc je dirais que voilà, la gauche n'en parle pas parce que, un, elle a oublié, deux, elle ne sait plus trop comment en parler. Elle n'a plus les armes. Et justement, le fait qu'elle ne s'empare pas de la culture, c'est qu'elle ne comprend pas que c'est là une arme qu'elle laisse en suspens, peut-être aussi parce qu'elle a longtemps pensé que les milieux culturels lui étaient acquis de tout temps et qu'il n'y avait rien à faire, et qu'une certaine manière, les choses étaient gagnées. Et il me semble que là, il y a une très grosse erreur de jugement, une erreur politique, et j'espère peut-être qu'elle va être modifiée, transformée au sein de la prochaine élection présidentielle.
À bon entendeur, qu'on vous entende. Mais c'est vrai que sur ces réflexions, Vincent Martini, on peut également penser pourquoi, comment des thèmes comme le protectionnisme économique, etc., sont complètement aussi passés du côté de la droite et de l'extrême droite. Pourquoi ?
Alors, c'est un peu ambivalent parce que la question du protectionnisme ou de la souveraineté...
économique, je parle.
Économique, mais elle n'est pas que économique. Le problème, c'est que vous parliez de l'exception culturelle tout à l'heure. Marine Le Pen, il y a un mois, dit l'exception culturelle, c'est la préférence nationale avant l'heure. Et le problème, c'est qu'elle a en partie raison. C'est toute l'ambivalence de l'exception culturelle. L'exception culturelle, je le rappelle, c'est une façon de dire les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres, et la France a le droit de revendiquer une exception nationale pour sa culture. Elle doit se protéger du marché. Marine Le Pen n'est pas idiote. Elle reprend ce thème à son compte parce que ça ressemble à des choses qu'elle a fait, mais elle oublie de dire que, bien sûr, le présupposé n'était pas du tout le même il y a 20 ans. On ne parlait pas d'exception culturelle contre les autres cultures, dans une forme de supériorité de la culture française sur les autres, ou dans un renfermement. Parce qu'à l'époque, on disait, il faut aussi que la culture française, elle dialogue avec les les autres. Ce qu'on ne voulait pas, c'était que la culture américaine, le côté raz-de-marée américain, avec l'argent aussi.
C'est de prévenir l'uniformisation.
Voilà, il fallait prévenir l'uniformisation et maintenir une forme de diversité. Donc on n'est pas sur les mêmes tenants, pas sur les mêmes aboutissants. Clair. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que, y compris la gauche et la droite, d'ailleurs, n'ont pas très bien compris ça. Peut-être j'écris mon livre trop tard, d'ailleurs. Ils n'ont pas compris ça. Et donc, la question de la souveraineté, on voit bien que c'est un thème qui traverse non seulement les partis politiques, mais ça traverse l'opinion. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils se disent, mais peut-être que si on fermait les frontières, peut-être que si on revenait à quelque chose de plus national, eh ben, ça irait mieux. Hein. Et il faut comprendre qu'en même temps, ils voient bien que ceux qui défendent la mondialisation, ceux qui défendent l'internationalisation des échanges, une partie d'entre eux, suivez mon regard, c'est plutôt la mondialisation heureuse. Hein. C'est quand on est banquier, quand on est énarque, quand on a toutes les cartes en main, c'est plus facile de défendre le voyage, quand on vit dans un avion, tout va bien. Je veux dire, bon, donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre à une majorité de la population, un, qu'elle est déjà dans une forme de mondialisation, deux, qu'il y a plusieurs mondialisations possibles. C'est pas seulement la mondialisation de l'économie et des banques, il y a plein de formes de mondialisation. Ça peut être Erasmus, c'est déjà la mondialisation. Et ça, Erasmus, ça touche des millions de jeunes qui vont aller vivre dans un autre pays européen et qui se rendent compte que là, tout d'un coup, bah, les frontières, ça n'a pas le même sens qu'il y a 50 ans, et heureusement d'ailleurs. Oui. Donc je pense que là, il faut trouver un espace politique et que ce débat sur la souveraineté, on peut comprendre qu'il existe, parce qu'on peut comprendre qu'une partie de la population française se dise, bah ouais, mais moi j'ai peur. Et quand on a peur, on a tendance à fermer les portes, fermer les fenêtres, parce qu'on se dit, bah, on va prendre un temps, on va se protéger, puis on verra plus tard. Mais le problème, c'est que ça porte un certain nombre de dangers.
Merci beaucoup, Vincent Martigny, d'être passé dans nos studios. Vous voulez rajouter ?
Excusez-moi. Oui, juste un mot pour dire, allez-y, pour les auditeurs qui, par ailleurs, par hasard, iraient à Paris, lundi à 19h, il y aura un débat que je ferai avec Raphaël Glucksmann, qui est un essayiste qui a écrit un livre qui s'appelle « Notre France, dire et aimer ce que nous sommes » à la Fondation Jean Jaurès dans le 9e arrondissement. On peut regarder sur le site de cette fondation, qui est une fondation, un think tank, comme on les appelle, un groupe de réflexion. Et il y aura aussi le groupe Trio, qui va venir chanter quelques chansons, voilà, incroyable. Et ça sera un événement, je crois, un peu original.
Donc, c'est vrai qu'ils sortent un nouvel album.
Si par hasard vous et certains de vos auditeurs viennent à Paris, ils sont les bienvenus.
Ça se passera le lundi, du coup, 20 février à Paris. Dans tous les cas, nous, les auditeurs peuvent vous retrouver sans doute demain, si c'est, mais je vous l'ai dit, c'est complet, mais peut-être qu'il y a des places qui vont se libérer, on ne sait pas. Centre social Mère et Colline, dans le 8e, vous êtes invité par les rencontres d'Averroès dans le cadre du 3e collège de Méditerranée. Discussion autour de l'histoire et représentation de l'Europe et de l'islam. Conversation avec l'historien Sobhi Bouderbala. Je rappelle également Dire la France, culture et identité nationale 81-95, paru en novembre 2016 aux presses de Sciences Po. Simon Morin était au micro et Seb Gelli derrière les manettes. Merci beaucoup, Vincent.
Merci.
À bientôt. We'll be right back.